When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Avertissement. Dans cet épisode, j'ai recueilli le témoignage de Taiwo, une jeune femme nigériane aujourd'hui réfugiée en France. Taiwo a fui son pays puis la Libye, à bord d'une embarcation de fortune sur la Méditerranée et sur le point d'accoucher. Au bord du naufrage, elle a été repêchée par l'Aquarius, navire humanitaire d'SOS Méditerranée. C'est à bord, en pleine mer, qu'elle a donné naissance à la petite Mercy. Taiwo a vécu de nombreux drames dans sa vie et lors de son voyage. Son témoignage aborde donc des sujets sensibles. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Mercy. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Voici le sixième volet de cette série, dans lequel j'ai recueilli le témoignage de Taiwo, la maman de Mercy. Vous l'avez entendu, Émilie était enceinte lorsqu'elle recherchait Taiwo et Mercy. Et je le suis moi-même quand je réalise cette série. Alors que je m'apprête à rencontrer Taiwo, je suis enceinte de 8 mois. Comme elle, lorsqu'elle a donné naissance à Mercy à bord de l'Aquarius. Ni Émilie ni moi ne pouvons imaginer une seconde ce qu'elle a vécu. Mais les corps parlent, comme en écho. La veille de l'interview, j'ai dormi 3 heures. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Bizarrement, je n'ai fait le lien que le lendemain. Je sais que ce que Taiwo va me raconter sera difficilement audible. Sa vie depuis l'enfance a été une succession de tragédies. Elle en parle très peu, mais ce jour-là, elle veut témoigner, faire entendre sa voix, dire les drames qui l'ont conduite à quitter son pays et ceux qu'elle a vécu pendant son voyage, raconter aussi la femme qu'elle est aujourd'hui. Taiwo a décidé de tout nous dire et je la remercie infiniment pour sa confiance. Avec l'aide de notre interprète, elle s'exprime dans sa langue maternelle, le Yoruba. Taiwo est née dans l'état de Ogun, au Nigeria. Lorsque sa mère a quitté son père, elle et ses frères et sœurs sont partis vivre à Lagos, la capitale économique du pays.
On ne connaissait personne. Ma mère vendait des fruits au bord de la rue et ma mère, des fois, elle me mettait quelques-uns dans un panier que je mettais sur la tête et j'allais me balader pour le vendre, puis je revenais en prendre d'autres, ainsi de suite. Et j'étais avec mon frère jumeau, deux de mes frères et une petite sœur. On dormait dans la rue, sur place, là où on vendait les fruits. Et un jour, il y a un monsieur qui est apparu, qui a commencé petit à petit à aider notre mère, qui a trouvé une maison où on dormait tous. Et finalement, ce monsieur, qui était notre bon samaritain, a fini par se mettre en couple avec ma mère. Quand j'ai eu l'âge de 12 ans, j'allais à l'école, il a dit à ma mère que je suis une fille, que j'ai rien à foutre à l'école et que j'ai 12 ans, il faut que j'arrête l'école. Ce monsieur, quand je me retrouvais seul avec lui à la maison, il tentait des attouchements, de me violer. Chaque fois, je me débattais jusqu'au jour où j'avais 12 ans. Il m'a pris, il m'a enfermé dans la chambre et il a pris ma virginité. Il m'a violé. Après, au fil du temps, c'est devenu une habitude pour lui. Et j'arrivais pas à en parler avec ma mère parce qu'elle me donnait pas l'autorisation de parler. Elle me laissait pas le temps. Vu l'autorité parentale chez nous, je pouvais pas parler. Donc, si vous me demandez ma jeunesse, il y a rien à dire à part cette souffrance-là. Et depuis, bah, ça a été l'enfer pour moi. Je n'allais plus à l'école. Je promenais avec les fruits sur la tête, de rue en rue. Et des fois, je marchais, je vendais mes fruits en larmes, je pleurais. Et au bout de plusieurs mois, il y a un mécanicien dans un garage, là où j'allais souvent vendre mes fruits, qui me dit, mais toutes les filles qui viennent, qui nous vendent des trucs ici, sont joyeuses, elles sont contentes des fois, même quand elles n'ont pas vendu grand-chose, elles s'asseyent là, elles discutent avec nous, on rigole, on s'amuse, mais toi, c'est toujours en larmes, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué, voilà le calvaire que je vis chez moi, voilà un peu ma vie, voilà pourquoi je n'ai pas la joie de vivre comme les autres filles, comme tu dis. Et ce monsieur a dit, ah bon, d'accord, t'inquiète, ça va aller. Sans me prévenir, du jour au lendemain, je le vois débarquer chez nous et il vient voir ma mère et lui dit, voilà ce que vit ta fille, il y a ton mari qui couche avec elle, tu ne lui donnes pas la parole, il faut qu'elle parle, donne-lui cette parole pour qu'elle se libère. Et là, ma mère s'est mise en larmes. C'est vrai, ma fille? T'as vraiment vécu ça? Ok, va-t'en, va-t'en, va avec ce monsieur. Va-t'en, il te protégera. Va-t'en, ne reste pas. Du coup, je suis parti avec ce mécanicien que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je me disais, vaut mieux peut-être être avec lui que de continuer à me faire violer à la maison tous les jours. Le monsieur m'a dit qu'il me voulait comme femme. Et il ne m'a jamais maltraité, il m'a toujours respecté. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas.
Taïwo fait sa vie avec cet homme. Ils ont 3 enfants. Elle continue de vendre des fruits. Lui travaille toujours comme mécanicien. Mais un jour, alors que Taïwo est de nouveau enceinte...
J'étais à 6 mois de grossesse. Quand il y a eu un incident dans le garage, là où il travaillait, il y a un monsieur, un militaire en l'occurrence, qui lui a amené sa voiture à réparer. Et il y a eu un incident dans le garage qui a fait que tout le garage a explosé. Et c'est sorti dans les journaux. Il y a eu beaucoup de morts. Mais heureusement, mon conjoint n'a pas été touché. Mais tous les véhicules ont explosé. Et quand le militaire est venu récupérer son véhicule, on a beau lui expliquer, voilà, c'est tout le garage qui a explosé. Il y a pas mal de véhicules qui ont été endommagés. Il n'a voulu rien comprendre. Et comme c'est un militaire, et on sait très bien au Nigeria, l'autorité des militaires, des fois, le militaire, il peut paraître supérieur au président, puisqu'il peut se donner tous les droits. Tant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un ultimatum à mon mari pour lui racheter le véhicule. Et n'ayant pas respecté l'ultimatum parce qu'on n'avait pas les moyens, il a débarqué et il a emprisonné mon mari. Donc du coup, moi je suis allé dans la maison du militaire, je l'ai supplié, j'ai demandé pardon de laisser mon mari, on va se débrouiller, on va faire de notre mieux. Il m'a éjecté à coups de pied et j'ai perdu la grossesse de 6 mois le jour-là.
À partir de ce moment, la vie de Taïwo bascule à nouveau. Elle et toute sa famille se retrouvent persécutées. Il faut rappeler ici que depuis les années 2000, les conflits entre des groupes armés et la guerre entre Boko Haram et l'État ont placé le Nigeria dans un contexte d'extrême violence. Un nombre considérable de civils ont été tués. Les conséquences sur les populations sont immenses. Viols comme armes de guerre, situations sanitaires désastreuses, famine. Certaines régions sont devenues des zones de non-droit, avec des attaques de bandits, comme on les appelle là-bas, qui tuent les villageois pour voler du bétail ou enlèvent des populations contre des rançons. Dans ce chaos, la violence et les règlements de compte peuvent s'abattre sur n'importe qui. Et comme l'explique Taïwo, les militaires ont tous les droits. Pour certains, la seule issue est de quitter leur pays pour leur survie. C'est le cas de Taïwo et de sa famille. Son mari décide de mettre à l'abri leur grande fille chez une tante et de prendre la fuite avec Taïwo et les 2 plus jeunes enfants. Ils prennent la route dans un pick-up avec des dizaines d'autres personnes en fuite, direction la Libye.
Sur notre trajet en traversant le Nigeria, étant donné qu'on était parti précipitamment, on n'avait rien sur nous. Nous étions affamés et c'est cette faim qui a tué mon fils cadet. Et nous avons continué de supporter cette faim. À un moment donné, il y avait même quasiment plus d'eau à boire. Et on s'est résolu à boire nos urines, puisque il est dit que chez nous, l'urine peut être une recette de santé dans certains domaines mélangés à des plantes. Donc, du coup, au final, on a continué à boire nos urines pour pouvoir au moins étancher notre soif. Mais ça n'a pas aidé. L'aîné également est décédé. Et juste avant que nous ne traversions la frontière et rentrions en Libye. On les a inhumés au bord de la route, on a creusé nous-mêmes, on les a inhumés là et puis on a continué. Et quand on est rentré en Libye, on a été emprisonnés, mon conjoint et moi, on a été séparés. Et moi, j'ai été vendu comme domestique dans une famille où je devais faire le ménage et autres, tous les travaux. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de 3 mois. Et même avec cette grossesse qui était déjà apparente, ceux qui m'ont acheté, le conjoint, me violait et couchait de force avec moi. Tellement violemment que j'ai perdu cette grossesse aussi. Même avec ma grossesse, je travaillais comme une malade, j'étais violée sauvagement. Et la grossesse a fini par tomber.
Taïwo parvient à s'enfuir et retrouve son mari. Il l'emmène là où il a trouvé refuge de son côté.
Quand on est arrivé, en fait, c'était un conteneur. Ils étaient plusieurs dizaines à dormir dedans, l'un sur l'autre. Et là, je me suis dit, autant rester avec mon conjoint que j'ai retrouvé là.
Plusieurs années s'écoulent en Libye. Le pays est alors en proie à la guerre civile. Dans la région où Taïwo survit avec son compagnon, des échanges de balles se produisent tous les jours. Autour d'eux, plusieurs personnes sont tuées. Taïwo est alors enceinte de Mercy.
Un jour, le monsieur, le propriétaire qui nous louait le conteneur, puisque ce n'était pas gratuit, il a vu que j'étais presque à terme et il me dit « Mais de toute façon, vous allez tous mourir. » Mais toi, vu ton état, je ne vais quand même pas te laisser mourir avec cette grossesse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour toi ? Et un jour, il débarque et dit, bon, je ferai de mon mieux. Après, c'est l'avenir qui décidera de ton sort. Il nous a mis dans une voiture après nous avoir recouvert le visage. Et nous, après quelques heures de route, on s'est retrouvés dans une forêt. Il nous a dit de descendre et il nous a intimé l'ordre de ne pas bouger de là. Si jamais nous sortions de cette forêt, c'était la mort assurée. Au bout de 3 jours d'attente dans cette forêt, on était affamés, on n'avait rien à manger, et puis c'était pas facile. Le propriétaire du conteneur qui louait le conteneur, il est venu et il a dit « on y va ». Il nous a amenés dans un bateau, il y avait beaucoup d'autres personnes. J'étais la seule femme et en plus j'étais enceinte. Et il nous a mis dans le bateau et le bateau est parti. Il n'est pas monté avec nous. Et je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut nous aider, mais à faire quoi? Comment? On ne sait rien. On est là sur un bateau. Où est-ce qu'on va?
Avant d'embarquer sur le canot pneumatique avec des centaines d'autres personnes, Taïwo a été séparée de son mari. Elle n'a plus aucun repère.
À vrai dire, à 8 mois et demi, dans un bateau aussi serré qu'on était, ne sachant pas où j'étais ni où j'allais, pour moi, je m'étais déjà fait à l'idée que cet enfant que je portais dans mon ventre n'était plus. Dans ma tête, mon ennemi était décédé. Mon ennemi allait vivre le pire enfer de sa vie. Alors je tiens à préciser, chez nous en Yoruba, quand on vit des moments difficiles et qu'on s'attribue des moments difficiles, des situations difficiles, on ne dit pas « j'ai vu la mort, j'ai failli mourir ». On dit souvent « mon ennemi a vu la mort, mon ennemi a failli mourir pour que ça ne nous arrive pas ». Donc du coup, dans ce bateau, mon ennemi n'avait qu'une seule chose en tête, c'était mourir, se libérer. Tout ce dont je me rappelle, c'est que le lendemain, il y avait le soleil était brûlant, et je vois un bateau et on me dit « ce sont les secours ».
C'est l'Aquarius, le navire de sauvetage d'SOS Méditerranée. Taïwo et les autres migrants sont repêchés in extremis.
J'ai vu du sang. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment pour mon ennemi de perdre son souffle. À ma grande surprise, j'ai entendu un bruit. Un enfant qui a crié. Je me suis dit, c'est bon, mon ennemi est en enfer. Avant de me rendre compte plus tard que j'ai accouché, mon enfant est bel et bien vivant. Quand j'ai vu ces docteurs venir, ces hommes venir, et quand ils ont commencé à me toucher, ils ont commencé à écarter mes jambes, je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai vécu, un de plus, qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent. Mais à ma grande surprise, ils ont vraiment pris soin de moi. Et depuis que j'accouche, on n'a jamais autant pris soin de moi, on ne s'est jamais autant inquiété pour mon bien-être. Donc vraiment, c'était loin de moi l'idée que je me faisais quand je les ai vus s'approcher de moi. Et ils ont vraiment été, ils m'ont soulagé, ils m'ont vraiment aidé. Et j'ai pu avoir cet enfant en vie. Aussitôt que j'ai accouché, on m'a demandé quel sera le nom de mon enfant. Et j'ai dit, pardon? Non, chez nous, le nom, il est donné le 8e jour. Donc, non, je ne sais pas. Elle a dit, il faut donner le nom maintenant. J'ai dit, je n'ai qu'une seule chose dans le cœur en ce moment, vous dire merci. C'est de là que m'est venu le nom merci. Juste les remercier, surtout... à la fin, il y a une femme dans l'équipe de secours. C'est elle qui a sorti l'enfant. Et elle était tellement attentive, tellement généreuse que j'avais juste envie de leur dire merci, 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 merci. Cet enfant, c'est surtout pour les remercier. Cet enfant, il est plus la leur que la mienne. Donc c'est de là que m'est venu le nom merci.
Merci, qui avec un Y signifie aussi en anglais « miséricorde ». L'Aquarius entre dans le port sicilien de Catane après la naissance de Merci, avec à son bord 946 rescapés. Taïwo débarque en Europe avec sa fille.
Quand je me suis retrouvé là-bas, en Italie, j'étais un peu surprise. J'avoue, je ne connaissais pas l'Europe. J'entendais juste les gens dire « on va en Europe, on va en Europe ». Mais ce n'est qu'une fois sur ce bateau qu'on nous a dit « vous êtes en Europe ». Et là, on m'a amené à l'hôpital. J'avais perdu énormément de sang. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital et après, on nous a amené dans le camp où on est resté. Je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là ? »
eyan bi marun ni sun ninu yara kan eyan mo sa nko ajo sinu camp yen sa awon ero po gan ninu camp
quand je suis arrivé au camp en fait au début c'était pas facile parce qu'on pouvait se retrouver des fois à 3 à 4 dans une petite chambre et jusqu'à ce que ma fille ait un an c'était vraiment pas facile à vivre mais du jour au lendemain ma vie a changé les choses ont commencé par s'améliorer on a commencé à prendre soin de moi et j'ai été surprise mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ce changement et là on me dit est-ce que tu sais qu'il y a une chanson sur toi sur ton histoire je dis ah bon bon moi je suis lettré je ne sais rien et puis là où je suis j'ai assez à rien pour savoir qui se passe dehors en plus je connais personne ici donc voilà je ne sais rien quand j'ai appris qu'il y avait une chanson sur moi franchement j'étais très heureuse parce que j'ai été touchée de savoir que mon histoire a ému quelqu'un au point d'en faire une chanson je me suis dit que les personnes qui ont juste de petits soucis et qui désespèrent de la vie voient à quel point ma vie a été désastreuse et là où j'en suis aujourd'hui, si ça peut leur donner du courage.
Le soir de l'Eurovision, le journaliste Alessandro Puglia réussit à faire entrer un poste de télé dans le camp de migrants. Taïwo et Merci regardent le grand show en direct. Depuis le camp, la maman peine à réaliser que son histoire est chantée devant des millions de téléspectateurs.
Au moment où j'étais dans le camp, je ne savais rien de l'Eurovision. On me disait, regarde la télé, regarde l'Eurovision, il y a Émilie qui va chanter ton histoire. Bon, j'écoutais, j'entendais, mais je ne comprenais rien.
Plus tard, l'impact de la chanson, mais surtout le lien avec Émilie et Jean-Carles, se fera plus concret pour Taïwo. 4 mois après l'Eurovision, lorsqu'elle et Merci peuvent quitter le camp de migrants pour le petit foyer sicilien, elle rencontre le duo pour la première fois.
Le premier jour, honnêtement, quand je les ai vus, j'avais qu'une chose en tête, partir avec eux et vivre avec eux. Parce qu'ils ont été d'un grand soutien. Ils amenaient même des trucs à ma fille, Merci. Mais ce premier jour, j'étais tellement à l'aise avec eux que je me suis dit, si seulement je pouvais partir avec eux. Je savais que ce n'était pas possible, mais dans ma tête, quand ils partaient, j'étais parti avec eux, sans même savoir où ils allaient.
Comme vous l'avez entendu dans les chapitres précédents, il faudra encore près de 2 ans pour que Taïwo et Merci rejoignent la France. Entre-temps, Taïwo aura retrouvé la trace de son mari. Lui aussi a rejoint l'Europe, mais il lui annonce avoir refait sa vie avec une autre femme. Aujourd'hui, Taïwo et Merci sont installés à Paris, dans un studio du foyer Emmaüs. Alors qu'on pourrait se dire que le plus dur est derrière elle, c'est lorsqu'on aborde le présent que Taïwo craque.
C'est difficile, là.
En fait, vous me demandez ce que je pense du futur, comment il sera. Quel que soit ce futur dont vous parlez, il ne sera jamais meilleur que ce qui m'a sorti de la misère et qui m'a permis d'avoir Merci. Et quel que soit ce futur, je ne dirai qu'une seule chose. Merci, merci. Parce que ça restera dans ma mémoire à vie. Et je dirai à Merci, à sa grande sœur et à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que c'est en France que je suis rentré et je suis sorti de la misère. D'où les larmes.
Je ne vois pas la même chose. Parce que je me dis
Là, c'est un autre combat, un combat d'une autre dimension que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire ma régularisation, celle de ma fille et surtout l'exfiltration de ma fille aînée, rester là-bas et pour que nous puissions vraiment être heureuses toutes les trois. Donc, il y a tout ça qui se bouscule dans ma tête. Mais c'est vrai que le traumatisme reste, il est même énorme et j'y pense constamment. Avant, la douleur, elle était à la fois morale et physique. Aujourd'hui, la douleur physique n'est plus, mais la douleur morale persiste parce que je suis toujours dans mon combat. Rien n'est stable. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail. Ma fille ne peut pas dire « Maman, je veux ça » et que je le lui donne. Donc forcément, ce n'est pas reposant. Et en plus, je ne fais rien de spécial. Donc j'ai largement le temps de me ressasser tout ce qui s'est passé. Si j'avais les papiers ou bien même que j'avais un boulot, je m'y attacherais de telle manière de ne même pas avoir le temps de penser à tout ça. Mais malheureusement, puisque je suis pas encore, ma vie n'est pas encore stable, j'y pense constamment et des fois même ça me donne l'insomnie. Et j'y pense, je pleure et ce sont ces pleurs qui me bercent en quelque sorte. Et c'est dans mes pleurs que j'arrive à m'endormir.
Se projeter est un exercice presque impossible pour Taïwo. Mais je lui demande quand même si elle a un rêve.
J'aurais souhaité être policière ou avocate pour pouvoir défendre les impuissants, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est l'abus de pouvoir d'un militaire qui m'a poussé à traverser tout ce que j'ai traversé aujourd'hui. Donc oui, j'aurais voulu être policière ou tout au moins avocate au service des plus démunis ou bien des maltraités. Parce que sans cet abus de pouvoir de ce militaire, je n'aurais peut-être pas traversé tout ce que j'ai traversé aujourd'hui. Mon combat aujourd'hui, c'est pour ma fille, merci. Le futur que je souhaiterais pour merci, en fait, je voudrais qu'il soit meilleur que le mien, que ma vie, ainsi que celle de sa grande sœur restée là-bas, traversera-t-elle ce que j'ai traversé? Pour moi, c'est ça le plus important. Que merci ne traverse pas ce que j'ai eu à traverser. Et peut-être que sa grande sœur traverse là-bas au Nigeria. Et pouvoir dire merci, chaque chose que tu feras, tu devras penser à remercier la France parce que c'est en France que nous sommes rentrés et notre vie s'est améliorée et que notre vie a un sens.
Le combat pour rester en France est loin d'être gagné et il reste toute une vie à réinventer. Découvrez la dernière partie de l'Odyssée dans le 7e volet de ce récit, à suivre. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, @NudePodcast. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. À très vite.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.